prochaine histoire.
Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires. Avec cette semaine, eh bien, notre nouvelle formule que nous continuons une grande histoire et nous terminons par une petite fable philosophique avec un habillage musical qui a quelque peu changé, vous allez le constater. Aujourd'hui, le conte d'Andersen qui petit écoutait, lisait plein d'histoires, mais lui, il voulait devenir un homme de théâtre, un grand dramaturge. Je sais qu'il ne devint jamais malgré moult essais. Et puis, après des voyages, eh bien, il écouta des histoires, il les écrivit, il en fit des bouquins et ça se vendit énormément. Et ce fut le succès et voilà pourquoi aujourd'hui encore, on peut écouter par exemple le petit soldat de plomb, enfin l'intrépide soldat de plomb exactement. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, puisqu'ils avaient été fondus avec l'étain de la même vieille cuillère. Ils portaient l'arme au bras, regardaient droit en avant et avaient un superbe uniforme rouge et bleu. Les premières paroles qu'ils entendirent dans ce monde quand on enleva le couvercle de la boîte où ils étaient fait enfermer, ce fut « Oh ! Les jolis petits soldats de plomb !» C'était un petit garçon qui parlait ainsi en battant des mains. On venait de lui faire ce cadeau pour sa fête. Il rangea sur le champ les soldats de plomb sur la table. Ils se ressemblaient entre eux comme des gouttes d'eau, sauf un seul, celui qu'on avait fondu le dernier. Le plomb avait manqué et l'on n'avait pu lui faire qu'une jambe, mais il ne s'en tenait pas moins ferme que les autres avec leurs deux jambes. Et ce fut le seul de tous qui eut des aventures dignes d'être contées. Sur la table où fut rangée la compagnie de soldats, il y avait beaucoup de jouets, mais entre autres un délicieux petit château en carton. Sur le devant, on voyait une allée de beaux arbres conduisant à un miroir rond qui figurait un étang où nageaient des cygnes de cire. À travers les fenêtres, on apercevait l'intérieur des salles, splendidement décorées et meublées, mais plus encore que toutes ces merveilles artistiques, on remarquait dans le vestibule une gentille petite demoiselle. Elle était en carton elle aussi, mais elle avait une robe de linon authentique, extrêmement fin, un ruban de soie bleu autour du cou, sur les épaules une écharpe rose et dans les cheveux une magnifique rose en paillettes. Elle levait les bras en rond, c'était une danseuse. Pour figurer un certain pas, une de ses jambes était pour le moment tendue en arrière. Mais le soldat de plomb s'imaginait que comme lui, elle n'avait qu'une jambe et c'était peut-être ce qui lui plaisait le plus en elle. « Voilà la femme qu'il me faudrait, se disait-il, mais elle est trop grande dame pour m'accepter. Sa maison est un palais, la mienne, une pauvre boîte en bois blanc où nous vivons 25. Ce n'est point là ce qu'il lui faut, mais si au moins je pouvais la connaître. » Notre soldat fut au comble de la joie quand le petit garçon le mit sur une grosse boîte qui se trouvait près du château. De là, il pouvait à loisir admirer la belle demoiselle qui, sans perdre l'équilibre, continuait à se tenir courageusement sur une jambe. Quand on remit les autres soldats dans la boîte, on l'oublia le soir où on l'avait mis. Tout le monde alla se coucher. Vers minuit, les jouets voulurent à leur tour s'amuser un peu pour leur propre compte. Le polichinelle gambadait follement, la toupie tournait et ronflait à tout rompre, les soldats s'agitaient dans leur boîte et fussent volontiers sortis pour prendre leur part de la fête, mais hélas, ils ne purent soulever le couvercle. Tout ce petit monde fit un tel bruit que le canari s'éveilla et se mit à siffler joyeusement. Seul, le soldat de plomb et la danseuse ne bronchaient pas, elle, les bras en rond demeurait toujours sur la pointe d'un pied. Lui se tenait sur sa jambe unique, mais sans quitter des yeux sa voisine. Voici minuit qui sonne à la pendule. Crac ! Le couvercle de la grosse boîte se lève par l'effet d'un ressort. Il apparaît alors un énorme gnome. La méchante boîte était un mécanisme. Notre soldat fut jeté en bas, mais retomba sur son pied et comme auparavant se remit à admirer la danseuse. Infirme Myrmidon, dit le gnome, comment oses-tu regarder des personnes qui sont bien au-dessus de ta misérable condition ? Le soldat resta impassible, ne dit mot. « Bon, jeune homme imprudent, nous verrons ce qu'il t'en coûtera demain. » Au matin, tout le monde se leva, la servante vint mettre la chambre en ordre et se plaça un instant le soldat de plomb sur le bord de la fenêtre ouverte. À ce moment, un très fort courant d'air produit par le gnome, je pense, fait battre la fenêtre et notre soldat, la tête la première, est précipité du troisième étage. Quelle effroyable chute! Il piqua droit entre deux pavés, son képi, sa baïette, tout son corps disparurent et l'on ne vit que son unique jambe fièrement tendue vers le ciel. La bonne et l'enfant descendirent le chercher. L'enfant marcha sans l'apercevoir presque dessus et le soldat fut sur le point de crier « Me voici !» Mais songeant à la consigne qui défend de parler, sous les armes, il se tut. Des gouttes de pluie tombèrent, puis une véritable averse qui abattit toute la poussière. Quand le soleil reparut, deux gamins vinrent à passer. « Ah ah !» dit l'un d'eux, « un soldat de plomb qui a perdu une jambe à la guerre, sans doute. Nous allons le mettre dans notre bateau, veux-tu » D'un vieux journal, ils avaient fait une barque, ils y placèrent le petit soldat et bien vite mirent la barque dans le ruisseau. Le courant l'entraîna et les deux gamins le suivaient, tout en frappant joyeusement des mains. Ciel ! Comme le ruisseau avait grossi, comme le courant était fort, comme les vagues étaient énormes. La barque en papier, toute secouée, se penchait parfois. Un tourbillon l'entraînait et on croyait qu'elle allait chavirer. Le soldat de plomb était mortellement inquiet, mais n'en laissait rien paraître. Intrépide, il tenait toujours énergiquement son fusil. Le bateau passa sous une dalle où il faisait noir comme dans un four. « Il ne fait pas plus sombre dans ma boîte, » pensa le soldat. « Que va-t-il m'arriver ? C'est cet affreux gnome qui m'a jeté un sort. Ah, si j'avais près de moi la belle dame du château, je me moquerais bien qu'il fût plus noir encore. » Tout à coup apparut un gros rat qui demeurait dans un trou sous la dalle sombre. « As-tu ton passeport ? » demanda-t-il. « Allons vite, montre-le !» Le soldat resta muet. Il était de sa dignité d'éviter toute relation avec cette horrible bête. La barque filait de nouveau. Le rat la suivait, grinçant des dents et criant à tous les bois flottants et à tous les fétus de paille du courant de l'arrêter. « Stop ! Stop ! Arrêtez-le ! Il n'a pas montré son passeport !» Mais l'eau entraînait toujours la barque et le soldat revit enfin le jour. Soudain se fit entendre un bruit épouvantable, semblable à celui du tonnerre, qui aurait pu demeurer impassible. Songez que, aussitôt après avoir passé la dalle, le ruisseau se jetait dans un canal en formant une magnifique cascade. Vrrr. Voilà la barque précipitée, mais le petit soldat garda son sang-froid. même en ce moment effroyable. La barque, ébranlée dans la chute, tourbillonna quatre fois sur elle-même. Et l'eau, en l'emplissant, la fit enfoncer. On ne voyait plus du soldat que sa tête et sa baïonnette. À ce moment précis, le papier de la barque se déchira et tout sombra au fond du canal, le soldat avec le reste. Et alors, le pauvre soldat de plomb pensa à la gentille danseuse qu'il ne pourrait plus admirer. Il allait mourir sans avoir pris part à aucun combat, sans s'être illustré par aucun acte de courage, et se dit combien cette mort était peu digne d'un brave. Il allait atteindre le fond plein de vases et disparaître à jamais, quand un gros poisson le happa, le prenant pour un petit goujon. Ciel ! Qu'il faisait noir dans le ventre de ce brochet, car c'était un brochet. On y était allé trois, bien plus encore que dans la boîte, mais le petit soldat habitué à monter la faction demeurait immobile et l'arme au bras. Le brochet nagea en tous sens, remonta à la surface de l'eau, fit subitement des contorsions horribles, puis rien. Après quelques heures, le soldat de plomb eut comme l'impression d'un éclair. C'était la lumière du jour dans toute sa splendeur et une voix criait « Le petit soldat de plomb !» Or, voici ce qui s'était passé. Le brochet avait été pris, porté au marché et une cuisinière qu'il y avait acheté venait de l'ouvrir avec un grand couteau. Elle l'avait pris et porté dans la chambre des enfants. Tous accoururent pour voir cet aventurier qui avait eu de belles histoires et qui même avait séjourné dans le ventre d'un poisson. Lui ne se sentait nullement flatté de cette curiosité qu'il ne devait qu'à ses malheurs. La cuisinière le mit sur la table. « Eh bien, admirez comme il y a parfois d'étranges coïncidences. Notre soldat de plomb se retrouvait dans la chambre même d'où il était parti pour son grand voyage. Et tous le reconnaissaient à sa jambe unique. Il revit la boîte où étaient enfermés ses frères. Il revit le ravissant spectacle du beau château de carton avec la gentille danseuse qui, avec intrépidité, se tenait toujours comme lui sur une seule jambe. Il se sentit ému à pleurer, mais ses larmes eussent été en plomb et cela n'eût pas été correct. Brusquement, l'un des enfants saisit notre petit soldat et le lança dans la cheminée sans que personne pût l'en empêcher. Plus tard, il raconta qu'il avait voulu savoir si le soldat se tirerait aussi bien du feu que de l'eau. Je crois que pour mon compte que cette vilaine action lui fut conseillée par le méchant gnome. La chaleur éprouva terriblement le soldat de plomb, son uniforme perdit ses belles couleurs. Alors il tourna les yeux vers la petite danseuse pour s'assurer de l'effet qu'elle en ressentait. Mais elle continuait à le regarder avec grâce. Bientôt il sentit qu'il commençait à fondre, il ne lâcha pas pour cela son fusil. Un coup de vent ouvrit brusquement la porte et emporta la danseuse qui, traversant les airs comme une sylphide, vint tomber dans la cheminée tout près du soldat de plomb. Elle prit feu et s'évanouit, lui continua de fondre jusqu'au bout et le lendemain la servante trouva sa dépouille dans les cendres, ses restes avait pris la forme d'un mignon petit cœur. Pour terminer, bien une petite fable philosophique, le paradis des oiseaux. Le capitaine Badding de Liverpool faisait au 19e siècle commerce avec les Indes, où il rapportait des cotonnades. Un jour, afin de se ravitailler en eau, il relâcha dans une petite île perdue de l'océan. Il la baptisa le paradis des oiseaux. Tant ses côtes en étaient peuplées. C'était un vrai enchantement, un spectacle extraordinaire. Des milliers d'oiseaux bariolés de toute espèce formaient un ballet incessant au-dessus des rochers. Badding sympathisa avec les quelques habitants de l'île et séjourna parmi eux une longue semaine. Au moment de les quitter, il ne savait pas trop quoi leur offrir pour les remercier de leur hospitalité. Puis, remarquant dans certaines maisons la présence de souris, il décida de leur faire don d'un couple de chats de son bateau. Un animal inconnu sur l'île. Ainsi, pensa-t-il, les félins nettoieraient les maisons de ces encombrants rongeurs. Le temps passa, et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que Badding repassa par le paradis des oiseaux. Hélas, il faillit ne pas reconnaître l'île d'autrefois. On n'entendait plus sur l'île le moindre froissement d'ailes. N'ayant pas de prédateurs, les chats s'étaient multipliés et étaient retournés à l'état sauvage. En quelques années, ils avaient nettoyé l'île de tous les rongeurs, mais aussi de tous les oiseaux qui y nichaient.
Yeah!
aujourd'hui une histoire d'Andersen, l'intrépide soldat de plomb, et puis une petite fable philosophique, le paradis des oiseaux. On se retrouve la semaine prochaine, oh oui tiens, avec d'autres histoires, encore une histoire d'Andersen, et puis un autre petit conte philosophique. Ciao, bye bye, c'était Doé qui vous racontait des histoires.